l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 13 janvier 2025. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Exactement 6 heures passées de 15 minutes à Bukavu, même heure, dans la commune de Moulongwe, dans la ville d'Ouvira. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, dans une réunion interinstitutionnelle organisée samedi, l'exécutif et l'assemblée provinciale s'accordent à une collaboration pour assainir les secteurs miniers afin de lutter contre l'exploitation illicite des minerais au sud Kivu. Dossier complet à suivre dès le début de cette édition du journal. Au sommaire également, dossier des Chinois arrêtés suite à l'exploitation illicite des minerais au sud Kivu. Un procès en procédure de flagrance s'ouvre ce lundi au palais de justice pour établir les responsabilités dans cette affaire. Et OCHA alerte sur la dégradation de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu et de la RDC, menacée de reconsidérer ses relations avec l'Ouganda si les fils du président Museveni poursuit ses déclarations menaçantes. À suivre dans la revue de presse avant la deuxième partie de cette édition du journal, la mise en onde par Alain Dar. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Et de nouveaux affrontements entre l'armée et les M23 sont signalés ce dimanche, depuis hier dimanche 12 janvier, sur différentes lignes de front dans les territoires de Masisi ainsi que dans celui de Nyiragongo au nord Kivu. Des tirs d'artillerie ont été rapportés dès les premières heures. À Nyiragongo, ces affrontements sont localisés dans les parcs nationaux de Virunga. Dans les Masisi, les sources locales rapportent des affrontements dans plusieurs localités depuis plusieurs jours. Diverses sources au sein de la société civile et des lanceurs d'alerte indépendants rapportent l'arrivée de nouveaux renforts des rebelles du M23 dans les territoires de Masisi. Ces renforts visent à combler les vides laissés après les lourdes pertes subies par les M23 RDF lors de la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à Masisi Centre selon les sources. Les renforts auraient été signalés le samedi 11 janvier à Karuba et Mushaki. Les rebelles du M23 auraient pour objectif de renforcer leur position vers Kagano, Lukala, Umure et Mfunzi, tandis que ceux de Mushaki se déplaceraient vers les Lualo localité des Moutandes dans les buts d'appuyer les localités de Rubaya et Masisi Centre. Et la ville d'Ouvira n'a pas été attaquée le vendredi 10 janvier dernier par des hommes armés. Les coups de feu entendus le vendredi soir sont plutôt l'œuvre des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en déploiement dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et des Fizi. Ces derniers auraient tiré des balles en désordre, ce qui a effrayé les habitants de la ville d'Ouvira et ceux des groupements de Kabindoula et Kidjaga dans les chefferies de Bavira. Cette précision est de l'acteur sociopolitique André Biadounia qui dénonce cette manœuvre devenue habituelle pour les forces loyalistes d'étirer des balles en l'air pour des motifs inavoués. Si c'est pour nettoyer les armes, il invite les commandants de l'armée à communiquer d'avance pour ne pas effrayer la population. André Biadounia en parle.
Condamner cette pratique des FARDC parce que c'est pas la première fois. Par moment, ils nous disent, non, ils sont en train de nettoyer leurs armes. Par moment, les militaires tirent ci et là, on ne sait pas pourquoi. Nous, on a condamné cette pratique et on a demandé aux FARDC que lorsqu'il y a pareille opération, on va nettoyer les armes, qu'on puisse dire à la radio, qu'on puisse envoyer un communiqué pour dire à la population de ne pas s'inquiéter. Il est vrai, nous sommes dans une zone opérationnelle, mais la population s'inquiète par moment parce que les coups de feu, on ne peut pas s'habituer. C'est déjà des sifflets. La population est calme, l'ouvrage est calme aujourd'hui, mais on a eu 3 blessés, malheureusement par balle perdue. Et c'est ce qui nous inquiète déjà, parce que si cette balle-là allait tomber sur la tête d'un citoyen ou d'une citoyenne, ça serait la mort.
Et je lance au sommaire de cette édition du journal, renforcer la collaboration entre l'exécutif provincial et l'assemblée provinciale du Sud Kivu. C'est l'objectif d'une réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue le samedi 11 janvier 2025 entre le gouverneur des provinces et les bureaux de l'organe délibérant du Sud Kivu. Au sortir de cette rencontre, le gouverneur Jean-Jacques Porroussi a indiqué qu'il était question de mettre l'organe délibérant au courant des différentes opérations menées par l'exécutif provincial dans les secteurs miniers, et ceci pourra renforcer la coopération entre ces deux institutions conditions pour la réussite de la mission de la lutte contre l'exploitation illicite des minerais au sud Kivu, Omer Moudekereza.
Jean-Jacques Pouroussi, on dit qu'il était également question de dissiper le malentendu qui a circulé au sujet de la démarche entreprise par le gouvernement provincial dans les secteurs miniers. Il en parle.
C'est pour encore une fois le renforcement de la collaboration interinstitutionnelle entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Donc, comme vous le savez, il y a un certain nombre de problématiques qui défraient la chronique dans la province du Sud Kivu depuis un certain temps. Il s'agit notamment de la question de la légalité du trafic, mais aussi question minière dans la province du Sud Kivu. Et donc, nous sommes venus ici pour faire le point avec le bureau de l'Assemblée provinciale pour voir comment nous allons renforcer, comme d'habitude, notre coopération par rapport à cette question.
De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Feston Kabeza, a salué la collaboration entre ces deux institutions, tout en remerciant le président de la République pour son implication dans la lutte contre l'exploitation illicite des minerais au Sud Kivu. Feston Kabeza.
Nous avons reçu le gouverneur, c'était pour faire le point comme par rapport à l'actualité. Qu'est-ce que nous devons lui rassurer? C'est la collaboration. Et nous soutenons le gouverneur, nous voulons l'encourager dans cette action-là, parce que ce type d'action, c'est ça que la population du Sud Kivu a besoin pour la promotion de son développement. Légalement, je voudrais en profiter pour dire merci au président de la République par rapport au soutien qu'il apporte à l'action du gouverneur de province.
Le gouverneur a indiqué que ces opérations seront menées dans tous les territoires de la province du Sud Kivu. Il invite la population à éviter des messages de haine ou des attaques xénophobes à l'égard des Chinois en séjour régulier au Sud Kivu, notamment ceux qui construisent les routes et d'autres infrastructures d'utilité publique.
Et jeudi 9 janvier dernier, le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, a mis à la disposition du procureur près la cour d'appel du Sud Kivu les trois sujets chinois arrêtés dernièrement dans l'exploitation et le trafic illicite des minéraux au Sud Kivu. Les 10 lingots d'or qui étaient à leur disposition ont été consignés au centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC en sigle, alors que les 400 000 dollars américains en liquidité saisis auprès de ces Chinois ont été consignés à la Banque centrale du Congo. L'annonce a été faite vendredi 10 janvier tard dans la soirée, à l'occasion d'une communication faite à la presse par les ministres de l'Environnement et porte-parole du gouvernement, Maître Didier Kabibashizi. Cette opération a été réalisée en exécution de l'instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, qui dans un message officiel avait instruit le gouverneur de remettre les dossiers entre les mains de la justice. Et par la même occasion, le gouvernement provincial a adressé une mise en garde sévère à tous ceux qui continueraient à s'investir dans l'exploitation illégale des minerais, tout en encourageant les investisseurs qui vont respecter la réglementation minière en RDC. Et nous apprenons que les procès en flagrance des trois Chinois récemment arrêtés par le gouverneur des provinces s'ouvrent ce lundi au palais des justices. Question d'établir les responsabilités est telle que demandée par les autorités au niveau national. Et le groupe de travail thématique mines et hydrocarbures du Bureau de coordination de la cité civile du Sud Kivu dénonce l'envahissement du secteur artisanal minier par des sujets étrangers. Pourtant, il s'agit d'un secteur réservé exclusivement aux nationaux. Dans une déclaration rendue publique samedi dernier, les organisations membres ont également dénoncé le fait que les coopératives minières sont devenues des passerelles pour la fraude et la contrebande minière en province. Cette déclaration intervient alors que le gouvernement provincial est dans une opération de traque contre les sujets chinois et autres étrangers impliqués dans l'exploitation et le trafic illégal des minerais dans la province du Sud Kivu. Pour les groupes de travail thématique mines de la société civile du Sud Kivu, les causes de ce trafic sont entre autres la présence et l'influence des politiciens dans les pillages des minerais en province, la corruption et le trafic d'influence, ainsi que l'impuissance des services techniques, la passivité de l'appareil judiciaire. Cette structure a formulé une série de recommandations à toutes les instances afin que cette pratique cesse et que les minerais exploités en province soit bénéfique aux communautés locales. On écoute à ce sujet Blaise Boubala Lide du groupe de thématiques mines et hydrocarbures de la société civile du Sud Kivu.
Au gouvernement national de respecter et faire respecter les codes miniers sur l'éligibilité et non-éligibilité de certains acteurs dans la chaîne d'approvisionnement, y compris les membres de la famille présidentielle, de déférer devant la justice les responsables des services migratoires qui facilitent l'entrée irrégulière des étrangers et leur exfiltration en cas d'arrestation pour les infractions punissables par les droits congolais. À l'Assemblée nationale, de lever les immunités aux députés impliqués et servant de couverture aux sociétés mafieuses, d'interpeller les membres du gouvernement qui sont constamment cités dans la protection des étrangers impliqués dans l'exploitation illicite de l'or et d'autres substances minérales au sud Kivu.
Blaise Boubala, lead du groupe thématique mines et hydrocarbures de la société civile du sud Kivu, au micro des radios Maendeleo, exactement 6 heures passées de 23 minutes à Bukavu et dans les territoires où nous sommes suivis. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maendeleo dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Maendeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent. L'épidémie de la variole des singes, communément appelée Mpox, a été bien contrôlée au cours de l'année 2024 dans toutes les 34 zones de santé que compte la province du Sud Kivu. Ceci parce qu'il n'y a pas eu assez de décès et la courbe des cas est en régression. Cette précision est du docteur Justin Dengueya, chef du bureau en charge de l'information sanitaire, en charge des opérations Mpox à la division provinciale de la santé au Sud Kivu, DPS Sud Kivu, Alain Kabika.
Justin Dengueya justifie la régression des cas par l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir l'État congolais, à travers le ministère de la Santé et ses partenaires tant internationaux, nationaux que locaux, pour leur appui technique et matériel. Il indique que les efforts sont toujours en cours en vue d'éradiquer cette épidémie dans les semaines qui suivent, d'où l'appel au renforcement des mesures d'hygiène. On l'écoute.
La province a bien contrôlé l'épidémie puisqu'il n'y a pas eu assez de décès. La dernière semaine de l'année 2024, nous avons observé une régression des cas dans presque toutes les zones de santé. Quand on regarde Miti-Muresa, c'est depuis pratiquement un mois et demi qu'on observe une courbe descendante, c'est-à-dire que les cas sont en régression. On a réussi à contrôler cette épidémie suite aux efforts de toutes les parties prenantes. La partie gouvernementale travaille avec les différents partenaires techniques et financiers. Ils nous ont aidés. On continue à observer toujours la courbe qui est descendante, ce qui est à féliciter. Le message que nous pouvons amener à la population actuellement, c'est de renforcer les mesures d'hygiène. Ça va quand même permettre de mettre hors d'état de nuire cette épidémie à ce premier trimestre 2025.
Signalons qu'au moins un cas d'impox a été identifié dans toutes les 34 zones de santé que compte la province du Sud Kivu, dont 6 zones en tête, à savoir la zone de santé de Miti-Muresa, Nyangezi, Uvira, Kamituga, Kimbi-Lulenge et Nyantende. Les 6 zones enregistrent chacune plus de 1000 cas, à en croire Justin Bengueya.
Et pendant ce temps, la régie de distribution d'eau, régie des eaux, section du Sud Kivu, exécute plusieurs projets pour l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Bukavu, après les quartiers Nyalukemba qui vient d'être desservi grâce à l'augmentation de la capacité de production de la station d'Enguba. Ce sont les avenues Muungu, Kansayo et Irambo qui seront bénéficiaires du projet d'installation d'une station de traitement d'eau potable Expedicalo.
Celle-ci disposera d'une pompe qui fournira au moins 1000 mètres cubes d'eau par heure dans la baie de Nyofu. Pour le chef technique à la régie des eaux Sud Kivu, Saloum Mwamba, le grand projet qui pourra servir tout Kadutu et une partie de Mungu reste celui de Pungwe, qui consiste à capter l'eau de cette rivière à la lisière du parc national de Kahuzi-Biega, puis construire une usine de traitement d'eau à Tchabarabe. Néanmoins, vu que ce projet pourrait prendre 3 à 4 ans, Saloum Mwamba fait savoir que la régie des eaux effectue dans un premier temps des projets à impact direct dans différents coins de la ville, notamment à Ibanda, pour résoudre certains problèmes de desserte en eau potable.
La partie que nous allons attaquer après Nyalukemba, c'est Mungu, où nous avons le projet de la baie de Nyofu, installer des pompes qui vont nous fournir 1000 mètres cubes par heure. Ce sont des pompes qui vont refouler vers les réservoirs de la voie du Congo pour alimenter tout Mungu, Kansayo, Irambo et toutes ces avenues qui étaient sans eau de ce côté-là. Nous avons un grand projet, c'est le projet Pungwe. Il y a aussi le projet d'amélioration de la desserte de l'eau potable vers Chimpunda, en récaptant les eaux des sources Funu et Kawa, afin de bien les orienter et éviter toutes les pertes que nous connaissons au niveau de ces sources.
Pour l'instant, ce qui reste au quartier Nyalukemba, c'est la stabilisation de la fourniture en eau, car il y a beaucoup de fuites qui nécessitent d'être colmatées pour renforcer la pression et améliorer la desserte, conclut notre source.
Et avant de parler sport, à 6h passées de 28 minutes à Bukavu et à Kamanyola en territoire de Walungu, les collectifs des chefs d'établissement d'enseignement primaire et secondaire de Kamanyola en territoire de Walungu plaident pour l'implantation d'une sous-division de l'enseignement dans cette entité qui compte actuellement une centaine d'écoles. Ces derniers disent faire face à des difficultés à se rendre à Nyangezi pour y participer aux réunions et y réaliser certaines formalités administratives. Les collectifs les fait savoir dans une lettre adressée au ministre provincial de l'éducation avec copie à Radio Maindeleo. Notre correspondant à Kamanyola, Wendo Joé, nous fait le point.
Dans une lettre adressée au ministre provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Sud Kivu, ces chefs d'établissement disent faire face à plusieurs défis, notamment les trajets d'une trentaine de kilomètres Kamanyola-Nyangezi pour participer à des réunions ou soit pour d'autres formalités administratives, avec tout comme souci, vit le délabrement de la route nationale numéro 5 dans les escarpements d'Engomo et parfois il y passe nuit à en croire mal et moutoumoy.
Notre déplacement vers Nyangezi est très difficile sur tous les plans. Nous allons toujours en moto. Pendant la période pluvieuse, il y a de la boue partout. Bon, arriver à Nyangezi, parfois, il faut passer la nuit à Nyangezi. Ce n'est pas facile. Il faut avoir des moyens nécessaires pour payer une chambre ou passer la nuit. Il faut se restaurer. Nous avons suffisamment d'écoles ici pour mériter cet avantage aussi. Quand vous avez déjà une sous-division, vos problèmes peuvent être résolus plus facilement que de passer par Nyangezi. Nous appuyons sa démarche.
Notre source se précise par ailleurs que Kamanyola compte aujourd'hui un nombre de 75 écoles opérationnelles, dont 45 écoles primaires, 25 écoles secondaires et 5 écoles maternelles, qui fait de cette entité l'un des rares villages qui regorge un tel nombre d'écoles opérationnelles, d'où la nécessité pour les ministres provinciaux de l'éducation d'examiner leurs demandes et d'en faire une priorité. De Kamanyola, Wendo Joé pour la Radio Maindeleo.
Merci Wendo Joé. Et à 6h passées de 30 minutes à Bukavu, 1h de moins, au stade des martyrs à Kinshasa. Merci de suivre la seconde partie de cette édition du journal sur les www.radiomaindeleo.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la Radio Maindeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Parlons d'abord du Classico. Dans un Classico scénario assez fou, malgré une dernière demi-heure plutôt décevante, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid 5-2 pour remporter la Supercoupe d'Espagne. Hier dimanche, la rencontre est partie sur un rythme un peu plus élevé, notamment côté catalan avec deux grosses occasions animées par autant de superbes parades signées Courtois. Et pourtant, ce sont bien les merengues qui ont trouvé la faille les premiers grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un superbe rush solitaire avant de tromper Chesney à la 5 minute. Avec une réaction immédiate des Blaugrana via leur génie Yamal, lequel s'est amusé avec la défense madrilène avant d'ajuster Courtois à la 22e minute pour l'égalisation. Après cette première demi-heure très animée, Kamavinga a commis l'irréparable dans sa surface de réparation et Lewandowski a donné l'avantage au sien sur penalty à la 36e minute de jeu. Puis place au festival Rafinha. Les Brésiliens, à la réception d'un centre millimétré de Koundé, a d'abord fait les breaks grâce à un joli coup de casque à la 39e minute. Puis il a offert le 4e but à Baldi en profitant d'une combinaison désastreuse de la Casablanca sur corner à la 45e minute. Au retour des vestiaires, le Real a pensé revenir dans la partie avec une belle reprise de volée signée Rodrigo qui a trouvé les poteaux. Et sur la contre-attaque, Rafinha s'est montré plus réaliste après avoir fait danser Tchouaméni dans la zone des vérités à la 48e minute. Au fond du trou, les partenaires de Bellingham ont toutefois repris espoir après l'exclusion de Chesney provoquée par Kylian Mbappé à la réduction de l'écart de Rodrigo sur le coup franc qui a suivi à la 60e minute. Nouvelle humiliation pour le Real Madrid après les Classicos d'octobre dernier perdus 4-0 donc et premier titre pour Barcelone cette saison. Et retour au pays, l'AS Maniema Union a perdu contre Mamelodi Sundowns sous le score de 2-1 au stade des Martyrs en marge de la 5e journée de la Ligue des Champions de la CAF le samedi 11 janvier 2025. Cette défaite sur les fils écarte les unionistes dans la course à la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Cette première expérience n'ira pas loin pour Papi Kimoto et ses hommes. Le score final était donc de 2-1 en faveur des Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud qui est donc venu battre Maniema Union au stade des Martyrs à Kinshasa. L'équipe de Kindu Région, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, également éliminé de cette compétition après sa défaite vendredi face au Mouloudia Club d'Alger. Nous sommes en Algérie.
La revue de presse. Radio Maindeleo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Alain Kabika, l'alerte est faite par Otia sur la dégradation de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu et la possibilité pour la RDC de reconsidérer ses relations avec l'Ouganda si le fils du président ougandais, Museveni, continue avec ses déclarations menaçantes. C'est parmi les sujets commentés par les journaux Paris le week-end dans la capitale Kinshasa.
Les bureaux de coordination des affaires humanitaires au Tchad a publié le week-end dernier un communiqué alertant sur la détérioration continue de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu, titre le site internet radiokapi.net. Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, a exprimé son profond désarroi face à l'ampleur des déplacements des populations et des violences dans cette province. Depuis le 1er janvier 2025, poursuit ce site internet, plus de 100 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer dans les territoires des Masisi en raison des affrontements persistants entre les rebelles du M23 et les forces armées de la RDC, note les communiqués. Cette nouvelle vague de déplacement s'ajoute à une crise humanitaire déjà complexe. Plus de 2,8 millions de personnes sont actuellement en situation de déplacement dans le Nord Kivu, soit plus du tiers de la population de la province. Les femmes et les enfants étant les premières victimes de ces affrontements. Dans son communiqué, Bruno Lemarquis a condamné avec force les violences perpétrées contre les civils et les acteurs humanitaires. Depuis près de 3 ans, le Nord Kivu est le théâtre des violents affrontements qui opposent l'armée congolaise en M23, un groupe rebelle soutenu par l'armée rwandaise. Les habitants de cette province, riche en ressources naturelles, sont également victimes des attaques répétées des rebelles islamistes et de l'ADF, qui sévissent dans les territoires des Beni au Nord Kivu, ainsi que dans la province voisine de l'Ituri. Dans un autre sujet, le site internet actualité.cd annonce que les différentes sorties sur X de Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni et commandant de l'armée ougandaise UPDF, ne passent pas inaperçues du côté des autorités de la République démocratique du Congo. Intervenant lors du briefing presse tenu le jeudi 9 janvier 2024, la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner a dénoncé les comportements du fils de Museveni alors que son pays et la RDC entretiennent de bonnes et amicales relations depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. La chef de la diplomatie congolaise a souligné que certaines démarches se font de manière publique et d'autres de façon discrète. La ministre d'État des Affaires étrangères, poursuit ce site internet, a convoqué mercredi 18 décembre le chargé d'affaires de l'Ouganda en RDC, Matata Touaha, pour fournir des explications au sujet des récents propos jugés déplacés de Muhoozi Kainerugaba, a notamment lancé un avertissement aux mercenaires blancs actifs aux côtés des forces armées de la RDC dans la traque des groupes armés dans l'est du pays. Cette sortie du fils de Yoweri Museveni intervient dans un climat de tension dans la sous-région, marqué par les refus de Paul Kagame de participer à la réunion tripartite prévue le dimanche 15 décembre dernier en Angola. C'est là alors que l'armée ougandaise appuie les FARDC dans la traque des rebelles ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans le cadre de l'opération Shuja. L'intervention ougandaise aux côtés des FARDC dans l'est du pays a toujours soulevé des interrogations, notamment en raison des soupçons de soutien des troupes ougandaises aux rebelles du M23. Selon un récent rapport des experts de l'ONU, l'armée ougandaise collabore avec le rebelle du M23, conclut ce site internet d'information.
Heures passées de 37 minutes à Bukavu et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Dans une réunion interinstitutionnelle organisée samedi, l'exécutif et l'Assemblée provinciale s'accordent à une collaboration pour assainir les secteurs miniers afin de lutter contre l'exploitation illicite des minerais au Sud Kivu. Et dossier des Chinois arrêtés suite à l'exploitation illicite des minerais au Sud Kivu, un procès en procédure de flagrance s'ouvre ce lundi au palais de justice pour établir les responsabilités dans cette affaire. Et OCHA alerte sur la dégradation de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu et de la RDC, menace de reconsidérer ses relations avec l'Ouganda. Si le fils du président Museveni poursuit ses déclarations menaçantes, vous l'avez donc suivi dans la revue des presse avant la deuxième partie de cette édition du journal. La mise en onde était celle d'Alain Zahar, la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Maindeleo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur le www.radiomaindeleo.info. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une fille. Au revoir.